La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Emmanuel Chiron
et Sophie Rodriguez. Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui un podcast d'actualité. Nous allons évoquer trois arrêts rendus récemment par la Chambre sociale sur des thèmes aussi variés que la rupture du contrat d'apprentissage, l'effet suspensif de la prescription de la transaction et les conséquences de la requalification d'une prestation de service en contrat de travail.
Cette dernière situation fera l'objet du décryptage plus approfondi en seconde partie de notre podcast. Pour notre premier sujet relatif à la rupture du contrat d'apprentissage, nous allons évoquer non un arrêt, mais un avis. Les juges des tribunaux et cours d'appel, saisis d'un litige, ont la possibilité, avant de rendre leur décision, de saisir la Cour de cassation pour avis, lorsqu'ils sont confrontés à une question de droit nouvelle qui leur pose une difficulté d'interprétation sérieuse. Ils demandent à la Cour de remplir sa mission d'unification de l'interprétation des lois, mais a priori, sans attendre d'être saisie en tant que voie de recours interne pour apporter son éclairage. Emmanuel, peux-tu nous préciser ce qui a conduit la Chambre sociale à se prononcer le 15 avril dernier ?
La Cour de cassation était saisie par une cour d'appel d'une telle demande d'avis. Les juges du fond souhaitaient savoir si la prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage pouvait être considérée comme un mode de rupture admissible pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur.
La possibilité de demander un avis est ouverte aux juges du fond par le Code de l'organisation judiciaire lorsque la question de droit nouvel qu'ils sont amenés à examiner présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. En quoi, dans ce dossier, la question posait-elle une difficulté sérieuse ?
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'une réglementation très précise, liée au fait qu'il permet à l'apprenti d'acquérir une formation en vue d'une qualification professionnelle. Étant donné que l'existence du contrat d'apprentissage est une condition essentielle pour l'obtention d'un diplôme, la loi en encadre particulièrement les possibilités de rupture. Si pendant les 45 premiers jours de la formation pratique en entreprise, le contrat peut être librement rompu par l'une ou l'autre des parties, en revanche, au-delà de ce délai, la loi n'admettait jusqu'en 2018 aucune forme de rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, que ce soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur. La rupture ne pouvait alors intervenir que d'un commun accord entre les parties. À défaut, elle ne pouvait être prononcée que par le Conseil de prud'homme dans des cas limités.
Mais sur ce point, la loi du 5 septembre 2018 a profondément modifié le régime de l'apprentissage.
Oui, car désormais des modalités de rupture unilatérales sont prévues par la loi. D'abord, elle peut prendre la forme d'un licenciement à l'initiative de l'employeur en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou enfin en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. Mais elle peut aussi intervenir à l'initiative de l'apprenti. Dans cette hypothèse, pour éviter des décisions impulsives pouvant mettre en péril sa formation, le législateur a prévu un encadrement. D'une part, l'apprenti doit au préalable solliciter un médiateur consulaire ou lorsqu'il exerce dans le secteur public non industriel et commercial un service désigné comme étant chargé de la médiation. D'autre part, il doit respecter un préavis dans des conditions déterminées par décret.
On peut remarquer que le législateur n'a pas évoqué la possibilité d'une prise d'acte. Et c'est justement sur ce point que portait la demande d'avis. Peux-tu d'abord nous présenter ce qu'est la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
Il s'agit d'un mode de rupture autonome du contrat à durée indéterminée, d'origine prétorienne, qui permet au salarié et à lui seul de prendre l'initiative de rompre le contrat de travail en se fondant sur des manquements qu'il impute à son employeur. Les effets de la prise d'acte dépendent ensuite de l'appréciation que les juges du fond vont avoir de la réalité et de la gravité des manquements. Si ceci était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, alors, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Et la jurisprudence considère que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
Tu as précisé que ce mode de rupture, qui distingue l'initiative de la rupture et son imputabilité, s'appliquait au contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation n'a-t-elle pas admis également cette distinction pour la rupture d'autres contrats ?
Si, s'agissant en particulier du contrat à durée déterminée. Mais elle n'a alors pas employé le terme de prise d'acte. Elle a en effet admis, dans un arrêt du 3 juin 2020, qu'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, à l'initiative du salarié invoquant des manquements de l'employeur, emportait la rupture immédiate du contrat et pouvait intervenir en cas de faute grave de l'employeur.
Ce parallèle est intéressant, car le contrat à durée déterminée ne peut, comme le contrat d'apprentissage, être rompu que dans des conditions très précises. Et quel a été alors l'avis de la Cour de cassation s'agissant du contrat d'apprentissage ?
Son avis est d'admettre une possibilité de rupture à l'initiative de l'apprenti lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, mais sans la qualifier de prise d'acte. Elle précise, d'une part, que la rupture du contrat est alors immédiate, d'autre part, que ce mode de rupture n'est pas subordonné aux conditions prévues par le Code du travail. L'apprenti n'est donc tenu ni de respecter un préavis, ni de saisir, selon le cas, le médiateur consulaire ou le service chargé de la médiation. Comme pour la prise d'acte, ce mode de rupture a pour objet de permettre au salarié, lorsqu'il n'est plus en mesure de poursuivre l'exécution du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur, de prendre l'initiative d'une rupture immédiate, les juridictions statuant alors sur la question de l'imputabilité de cette rupture.
On voit qu'il s'agit donc bien comme la prise d'acte d'un mode de rupture autonome, puisqu'il échappe à la réglementation de la rupture à l'initiative du salarié admise depuis 2018. Et quel va être alors le rôle des juges du fond ?
Il leur appartient d'apprécier la gravité des manquements invoqués et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, c'est-à-dire de déterminer si ces manquements étaient bien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat d'apprentissage. La sanction réside alors dans l'octroi de dommages et intérêts.
Passons maintenant au second arrêt de cette partie d'actualité. Il a été prononcé le 9 avril 2026 par la Chambre sociale. Il admet que la transaction a un effet suspensif de la prescription de l'action en justice engagée entre les parties ayant le même objet. Emmanuel, peux-tu nous rappeler les faits qui ont conduit la Cour de cassation à se prononcer sur ce point ?
Bien sûr. Une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'une banque avait été licenciée pour faute grave le 13 février 2018. Après ce licenciement, elle avait signé avec l'employeur, le 5 mars 2018, une transaction qui portait précisément sur la rupture du contrat de travail. Le 26 avril 2019, elle avait saisi la juridiction de demande relative à la rupture du contrat en contestant préalablement la validité de la transaction.
C'était en effet une condition indispensable à la recevabilité de son action. L'un des effets de la transaction, selon l'article 2052 du Code civil, est de faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il fallait donc préalablement que la transaction soit annulée pour qu'elle puisse formuler des demandes.
Et dans cette espèce, l'employeur soutenait que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail étaient prescrites, car elles avaient été formulées plus d'un an après la rupture du contrat de travail.
Nos auditeurs pourront sur ce point se référer au précédent podcast numéro 35 et 43 relatif à la prescription et à son point de départ. Rappelons seulement que la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, ce qui implique d'examiner pour chaque demande sa nature propre.
C'est justement cette application distributive des délais de prescription qui sous-tendait le raisonnement de l'employeur. En effet, par un autre arrêt récent du 8 octobre 2025, la Cour de cassation avait décidé que l'action en nullité d'une transaction n'était pas soumise au délai de prescription d'un an prévu par l'article L1471-1 du Code du travail pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Cette action en nullité relève en effet du délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Mais la prescription quinquennale ne s'étend qu'aux demandes relatives à la nullité de la transaction, et non aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail dont cette annulation autorisait la formulation.
Pour autant, la Cour de cassation ne retient pas la prescription de l'action de la salariée. Pour quelle raison ?
Parce qu'au terme de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, c'est justement la situation dans laquelle se trouve le signataire d'une transaction. Toute action en justice ayant le même objet est irrecevable. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de la transaction le 5 mars 2018 et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel.
On peut donc retenir que la signature d'une transaction, parce qu'elle constitue un empêchement résultant de la convention, qui place son signataire dans l'impossibilité d'agir en justice, suspend le délai de prescription de l'action qui a le même objet. Et cette suspension du délai de prescription prend fin à la date du prononcé judiciaire de l'annulation de la transaction.
Nous vous avons annoncé en introduction que nous allions nous attarder davantage sur un arrêt concernant la requalification d'une prestation de service en contrat de travail. Il s'agit d'un arrêt rendu le 6 mai dernier par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un travailleur indépendant avait exécuté, pendant près de 2 ans, des contrats de prestation de service au profit d'une société. Lorsque celle-ci a mis fin à la relation contractuelle, le prestataire a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
La Cour d'appel a requalifié les contrats de prestation de service en contrat de travail. Elle a dit que la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
Ce dossier posait donc la question de la détermination du salaire et des indemnités dues à ce prestataire de service devenu salarié par l'effet de la requalification opérée postérieurement à l'exécution des contrats de prestation de service.
Exactement. La requalification de ces contrats en contrat de travail de droit commun opère rétroactivement pour la période concernée par l'exécution du travail. Celui qui devient ainsi salarié a droit à un salaire. Mais quand la relation contractuelle initiale a été exécutée, celui qui était encore prestataire à ce moment-là a reçu le tarif journalier convenu dans les contrats de prestation de service. Peut-on considérer que les deux, tarif de la prestation de service et salaire, sont équivalents et que le salaire doit être fixé à la hauteur du tarif facturé pour la prestation de service? C'est ce que sollicitait le travailleur concerné.
Si la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur cette question, elle avait déjà dégagé certains principes utiles dans des circonstances approchantes.
Tout à fait. À l'occasion de dossiers portant sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, elle a dit que la requalification a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a énoncé le même principe pour des salariés de l'audiovisuel, un chef monteur et 2 réalisateurs, engagés par des CDD successifs requalifiés en CDI, et encore en 2023 pour un journaliste pigiste dont le contrat a aussi été requalifié en CDI, ce qui lui conférait la qualité de travailleur permanent.
Et elle a tiré les conséquences de ce principe.
Oui. Puisque la requalification a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un CDI. La Cour de cassation a jugé que le salaire qui résulte de la requalification ne se calcule pas au regard des accords financiers qui régissaient la relation initiale. Dans un arrêt du 2 février 2022, elle avait ainsi déjà dit que la requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permettait pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties avaient fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondaient au salaire horaire considéré comme convenu. En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération du salarié, il revient au juge d'évaluer souverainement le salaire dû à celui dont le contrat a été requalifié.
D'accord, mais comment? Sur quels éléments peut-il se fonder?
Il peut notamment se référer aux dispositions de la convention collective applicable.
Concrètement, il applique les minima sociaux prévus par la convention collective pour l'emploi considéré?
Pas nécessairement. Il peut estimer que la rémunération du salarié doit leur être supérieure au regard des éléments particuliers qui lui sont soutenus. Mais il ne peut pas retenir un salaire inférieur aux minima sociaux, évidemment. dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mai dernier que nous examinons. La Cour d'appel a fixé le salaire brut mensuel de l'intéressé en considération des grilles salariales de la société. Le salarié, qui a formé le pourvoi principal, le lui reprochait, puisqu'il souhaitait que soit retenue la rémunération convenue au titre du contrat de prestation de service. La Cour de cassation juge que la Cour d'appel pouvait se référer aux grilles salariales de la société dont se prévalait l'employeur. Elle n'exerce sur ce choix qu'un contrôle qu'on dit « léger ». La Cour d'appel a pu fixer le salaire brut mensuel de l'intéressé en considération des grilles salariales de la société. Elle aurait aussi bien pu se baser sur d'autres éléments, sous réserve qu'ils aient été dans le débat. Mais les grilles salariales de la société conviennent.
Une fois le salaire fixé, on a la base de calcul de plusieurs indemnités de fin de contrat. L'indemnité compensatrice de préavis, par exemple, est égale au salaire qu'aurait dû percevoir le salarié pendant la période de préavis.
Exactement. Dans l'arrêt du 8 février 2023, dont j'ai déjà parlé, concernant la requalification d'un contrat de journaliste pigiste en contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation a retenu qu'il faut prendre en compte les sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui est reconnu pour calculer cette indemnité compensatrice de préavis. Elle l'a dit aussi pour la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Là, avec l'arrêt du 6 mai dernier, elle l'affirme encore pour la requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail.
On peut alors penser que pour la détermination de l'indemnité de travail dissimulée, dont la loi prévoit qu'elle est forfaitairement égale à 6 mois de salaire, c'est également le salaire dû en application du statut de salarié résultant de la requalification en contrat de travail qui compte.
Effectivement.
Est-ce que c'est également ce salaire qui est pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement, que ce soit l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris dans une fourchette, qu'on appelle les barèmes Macron, où les montants minimaux et maximaux sont fixés en mois de salaire brut?
Eh bien non. L'arrêt approuve la transposition ici d'une solution dégagée dans l'un des cas de requalification de CDD en CDI. Il s'agit de l'un des dossiers concernant un salarié réalisateur dans l'audiovisuel, intermittent du spectacle que j'ai déjà évoqué. Il faut noter que le mot « intermittent » est mentionné dans l'arrêt concerné entre guillemets, pour rendre apparent que ce terme, fréquent dans les métiers du spectacle, fait référence à un statut particulier, notamment pour le régime de chômage, mais qui ne concerne pas la durée du travail en droit social. Sur cette question de la durée du travail, notre réalisateur avait simplement la qualité de salarié en CDD successifs. La Cour de cassation a jugé que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui donne au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté dès l'origine par contrat de travail à durée indéterminée. C'est le principe que j'ai déjà exposé. Et la Cour de cassation en a déduit que les sommes qui avaient été versées en sa qualité de salarié en CDD, plus élevé que le salaire qu'il aurait perçu en tant que salarié permanent en CDI, compte tenu de l'indemnisation de la précarité de son statut à l'époque, devait lui rester acquise, en dépit de la requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, parce que le différentiel en sa faveur était destiné à compenser la situation de précarité dans laquelle il avait été effectivement placé du fait de son contrat à durée déterminée initial. Par conséquent, les sommes à prendre en compte pour le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient celles qu'il avait perçues au titre de son salaire de base brut en sa qualité initiale d'intermittent.
Et la Cour de cassation a appliqué les mêmes règles pour le prestataire de service qui a obtenu la requalification de ses contrats de prestation de service en contrat à durée indéterminée.
Oui. Elle approuve la Cour d'appel qui a déterminé le montant des indemnités de licenciement en prenant en compte les sommes perçues par l'intéressé en sa qualité de prestataire de service qui lui était définitivement acquise.
Je voudrais revenir sur une étape du raisonnement de la Cour de cassation que tu as mentionnée. Tu as dit que celui qui était salarié en CDD ou prestataire et qui est devenu salarié en CDI conservait les sommes qui lui avaient été versées en sa qualité initiale pour compenser la situation dans laquelle il avait été effectivement placé du fait de son contrat initial.
Il ne peut pas prétendre au maintien pour l'avenir après la requalification des sommes et des avantages qu'il percevait au titre de son statut initial de salarié en CDD ou de prestataire, puisqu'il devient salarié en CDI. Mais la Cour de cassation juge qu'il ne peut pas être tenu pour autant de rembourser ses avantages qui étaient justifiés par la situation qui a réellement été la sienne à un moment donné. Dans notre affaire, celle de l'arrêt du 6 mai dernier, L'employeur demandait reconventionnellement la restitution de l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur anciennement prestataire et le salaire qu'il aurait perçu et dont le montant est fixé en conséquence de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Mais la requalification, si elle a pour partie un effet rétroactif, n'efface pas ce qui a existé dans le passé.
La Cour de cassation avait déjà considéré que le salarié dont le contrat à durée déterminée était requalifié en contrat à durée indéterminée ne devait pas rembourser à l'employeur la prime de fin de contrat qu'il avait reçue, parce que cette prime, destinée à compenser la situation de précarité dans laquelle il était placé du fait de la conclusion d'un CDD, lui était définitivement acquise. De la même façon, les sommes qui ont pu être versées à un pigiste lui restent acquises, même s'il obtient la requalification ultérieure de sa relation de travail en CDI.
Avec l'arrêt du 6 mai dernier, la Cour de cassation retient donc la même conséquence en cas de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
On peut ajouter que, parallèlement, le travailleur dont le contrat de prestation de service est requalifié, qui a acquitté des charges sociales liées au statut de travailleur indépendant, ne pourra pas obtenir le remboursement de ses charges sociales par l'employeur, ni la régularisation de sa situation auprès des caisses et organismes sociaux pour le passé. La Cour l'a jugé dans un arrêt de 2018, dont vous trouverez les références sur la page du site internet de la Cour de cassation consacrée à ce podcast, rubrique kiosque, comme celle de tous les arrêts que nous avons évoqués aujourd'hui.
C'est la fin de notre podcast. Merci Sophie.
Merci Emmanuel. À bientôt.